Le Collège de France a un vieil, enfin relativement vieil arrangement, une convention avec l'Université d'Uppsala. C'était une des premières, je crois, que nous avions conclues, qui consiste à échanger régulièrement des professeurs. Et donc aujourd'hui, vous assistez à l'un de ces échanges et je suis, au nom de l'Assemblée des professeurs, heureux d'accueillir Madame Ingela Nilsson, qui est professeure à l'Université d'Uppsala. Elle a étudié à Göteborg, personne n'est parfait, et elle y a publié, soutenu et publié en 2001 une thèse sur le pathos, je traduis en français, érotique et le plaisir rhétorique, technique narrative et mimesis dans l'Ismène et l'Isménias de Mathios Makrembolites, qui ont tracé la voie de sa carrière qui est consacrée à la littérature et aux romans, notamment byzantins. Les années suivantes, elle a beaucoup bougé, elle a été professeur, un chercheur invité à la Freie Universität à Berlin. Elle a ensuite été pendant trois ans fellow dans le Collège d'études avancées suédoises, qui est à Uppsala, je crois. Et ensuite, en 2007, déjà, professeur associé de byzantinologie à l'Université d'Uppsala. Et après un passage à Paris en 2008-2009 à l'École des hautes études en sciences sociales, elle a été nommée en 2010 professeur de grec dans l'Université d'Uppsala, avec la spécialité, vous vous y attendiez, dans le domaine byzantin, ce qui est très bien. Madame le professeur Ingela Nilsson a organisé et publié, outre ses propres livres dont nous parlerons, j'en ai déjà cité un, plusieurs tables rondes ou colloques avec un collègue ou seul, qui concernent en général des problèmes de littérature, ou un problème comme genre et problème du genre, perspective théorique et historique, en 2003. Elle a fait, en 2009, elle a publié un autre colloque sur comploter avec Eros, sur la poétique de l'amour et l'érotisme de la lecture. Plus récemment, très récemment, elle est en train, on attend la publication en 2014, d'un autre livre qu'elle a fait, qui s'appelle « Rechercher », avec un « wanted », avec un « et » accent aigu, « Byzance », le désir d'un empire perdu. Et elle prépare par ailleurs un volume sur les fontaines de Byzance. Et plus près de nous, elle a sous presse, et ça devrait, j'espère, paraître bientôt, aux Belles Lettres à Paris, un volume sur « Raconter Byzance, la littérature du XIIe siècle ». Par ailleurs, je n'insiste pas là-dessus, elle a écrit de très nombreux articles, essais, autour de Byzance, de sa littérature et de ce qui l'intéresse, cette littérature romantique, de roman, si vous voulez. Et elle a choisi de venir nous parler ces deux séances de ce qui l'intéresse plus précisément. D'abord aujourd'hui, elle parlera des amours d'Ismène, comme vous avez vu, et d'Isménias, roman très connu, un roman byzantin à Paris au XVIIIe siècle. Et puis la fois prochaine, elle parlera de Talking with Dead Authors from Lucian to Boileau via Byzantium, toujours. Et je la remercie pour ses travaux très originaux sur Byzance et la réception des romans byzantins plus tard. Et je suis absolument très curieux de l'entendre sur ce sujet. Professeur Nilsson.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance aux organisateurs et surtout au professeur Jean Scheidt qui a eu la gentillesse de m'avoir invité. C'est un énorme honneur et une grande joie pour moi d'avoir cette occasion de présenter mon travail sur la réception du roman byzantin en France. Et étant donné que tous les textes sont français, j'ai décidé de présenter cette conférence en français. Il est bien connu que le roman grec a joué un rôle important au début de l'Europe moderne et surtout ici en France. Il est même évident que la transmission et la popularité du roman grec, en particulier les romans d'Héliodore et d'Akiltatéis, ont fourni un modèle et ont influencé les romans composés en France à partir du XVIIe siècle. L'Astrée d'Honoré d'Urfé était un roman pastoral, mais il était clairement influencé par Héliodore. Artamène, ou le grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry, a puisé son matériel à Hérodote et à Xénophon, mais l'intrigue a été conçue de manière à reproduire une ambiance romanesque. Les œuvres de Madame de Lafayette, notamment Zaïde, princesse de Clèves, maintenant considérées comme le premier roman psychologique, ont été composées, elles aussi, sous l'influence de la tradition ancienne. Mais quelle était la fortune des romans byzantins de l'époque comnène, composés à Constantinople au XIIe siècle et écrits sous l'influence du roman ancien? Ne faisait-il pas partie de l'héritage grec qui a atteint la France et le reste de l'Europe au XVIe siècle? Ou n'était-il pas regardé comme digne de la même attention que le roman ancien, considéré comme appartenant à l'héritage classique? La réponse à la première question est assez simple. Les romans byzantins, comme nous le verrons, ont en effet été transmis en Occident pendant la Renaissance, tout comme les autres textes grecs. La deuxième question exige une réponse plus complexe, et cette conférence est une tentative d'en offrir une clarification et une interprétation provisoire. Je vais focaliser mon investigation à l'un des romans byzantins et à sa réception au XVIIIe siècle, à savoir Ismini Isminias de Matthios ou Evstatios Makrambolitis. Je vais me concentrer sur trois cas d'adaptation. Une traduction de Pierre-François Godard de Beauchamp, une analyse du plaisir érotique dans le traité philosophique « L'art de jouir » de Julien Auffray de la Mettrie et un opéra de Jean-Benjamin de Laborde. Mais commençons par examiner brièvement comment Ismini et Isminias, roman byzantin, est arrivé à Paris. Le roman de Makrambolitis, composé dans les milieux impériaux de Constantinople au XIIe siècle, est l'histoire d'un jeune couple, Ismini et Isminias, qui tombent amoureux et décident de s'enfuir ensemble. Ils sont séparés lors d'une tempête en mer et puis luttent pour leur retrouvaille et leur mariage. Les motifs de l'histoire sont donc clairement tirés du roman grec, en particulier l'Evkipé et Clitophon d'Akiltatéis. Ismini Isminias peut donc être considéré comme une paraphrase d'un modèle ancien, mais sa forme littéraire le relie résolument à l'ambiance rhétorique du XIIe siècle, de sorte que l'intrigue et les aventures romanesques passent au second plan. Cela a conduit à des jugements sévères. Le roman de Makrambolitis a été traité comme une imitation servile d'Akiltatéis, a slavish imitation, ou tout simplement était considéré comme incroyablement ennuyeux, unbelievably tedious. En dépit du dédain manifesté par les savants modernes, le roman de Makrambolitis semble avoir été fréquemment lu jusqu'au XVIIIe siècle. Après la chute de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453, les romans grecs ont gagné une grande popularité en Europe de l'Ouest. Les romans comnènes ont été aussi transmis à l'Occident et lus en langue originale et en traduction. Ismini Isminias a survécu dans 43 manuscrits, la plupart datant des 15e et 16e siècles. Il s'agit donc d'un nombre considérable de manuscrits. Une comparaison avec le presque 30 manuscrits d'Héliodore et les 23 d'Akiltatéis indique que le roman de Makrambolitis était en fait parmi les plus fréquemment lus de romans grecs pendant la Renaissance. La première traduction imprimée d'Ismini Isminias était en italien et apparut à Florence en 1550. Cette traduction, effectuée par Carani, était assez populaire pour être réimprimée deux fois et elle est devenue la base de nombreuses traductions en d'autres langues européennes. La première traduction française était celle de Jean Louvaux d'Orléans. La deuxième n'était en effet pas une traduction du texte grec, mais une adaptation de la traduction italienne de Carani par Jérôme Davos de Laval. Quelques 30 ans plus tard est apparu l'Editio Princeps du texte grec par Gilbert Golman avec une traduction latine. Et peu de temps après, une autre traduction en français a été apparue, cette fois de Colté. En avançant en plein XVIIe siècle, le roman s'insère dans les discussions savantes. Nous avons donc besoin d'examiner brièvement la situation culturelle et littéraire contemporaine afin de comprendre mieux la position du roman grec dans ce contexte. Nous avons déjà noté que la littérature grecque a influencé le premier roman écrit en français et que les romans grecs, en particulier celui d'Héliodore, les Éthiopiques, ont influencé beaucoup la production littéraire française. En même temps, en France du XVIIe siècle, a eu lieu un débat sur les dangers et les avantages de l'écriture et la lecture de romans. La question de l'origine était au cœur de quelques arguments émis pour et contre le roman. L'une des critiques les plus sévères était celle de Nicolas Boileau, qui dans son « Les héros de roman » avança que le roman manquait d'ancienneté et de règles, comme il n'était pas connu par Aristote et Horace. En outre, en raison de son contenu immoral, le roman pourrait même être considéré comme dangereux. Les idées de Boileau doivent être lues dans le contexte de la querelle des anciens et des modernes. Charles Perrault, l'un des instigateurs de la querelle, était du côté des modernes, supportant la littérature du siècle du Louis XIV contre les anciens, les adeptes de la littérature antique. Perrault a fait valoir que le règne éclairé de Louis fit un âge supérieur à tous égards à l'Antiquité, ce qui signifiait que la littérature française contemporaine était supérieure aux œuvres de l'Antiquité. Boileau, d'autre part, a soutenu que la meilleure littérature doit être fondée sur l'imitation des anciens, et puisque les règles romanesques n'avaient pas été définies par Aristote, le roman constituait un genre problématique. C'est dans ce contexte que le célèbre évêque Pierre-Daniel Huyer a écrit sa défense du roman, faisant remonter son origine non seulement au roman grec, mais même aux traditions orientales. De l'origine du roman a été d'abord publié comme préface au roman Zaïd de Marie de Lafayette, mais il a ensuite été retravaillé en plusieurs étapes. Le traité d'Huyer est considéré comme la première histoire de la fiction, car il contient une définition fondamentale du genre et expose des réflexions sur ses aspects positifs et négatifs. En ce qui concerne les romans grecs, Héliodore a été considéré comme supérieur. Tatius, d'autre part, avait selon Huyer un style plus agréable. Par contre, Huyer n'aime pas beaucoup le roman de Macrinvolitis. Rien n'est plus froid, rien n'est plus plat, rien n'est plus ennuyeux. Nulle bienséance, nulle vraisemblance, nulle conduite. C'est le travail d'un écolier ou de quelque chétif sophiste qui méritait d'être écolier toute sa vie. Après une brève évaluation tout aussi négative d'un autre roman comnène par Théodore Prodrome, il passe ensuite à discuter Daphnis et Chloé de Longus, qu'il trouve très semblable au roman byzantin en raison de son caractère sophistique. Il le considère tout simplement puéril et ridicule. Mais en dépit de sa désapprobation des romans comnènes, il range ses textes parmi les romans grecs qui suivent les règles de l'écriture romanesque que les Grecs ont raffinées avec succès. Nous devons noter qu'il ne fait aucune distinction formelle entre les romans anciens et les romans byzantins. Ils sont tous des romans grecs. Cela ne veut pas dire qu'il était ignorant de leur datation. Il place correctement Macrin Volites et les autres romans communs au XIIe siècle. Le terme « roman grec » était donc une désignation générique qui renvoyait à la langue de l'original et à la vie d'ensemble du genre, plutôt qu'à la date de la composition de texte. L'entrée du « yé » pour le roman grec doit être comprise dans le contexte de discussion en cours sur le roman baroque et le débat entre anciens et modernes. Comme un visiteur fréquent des salons de Madeleine de Scudéry et un fervent partisan du roman, Yé a pris le parti des anciens et son traité sur le roman pourrait même être considéré comme une réponse directe à la critique exprimée par Boileau. Son aversion pour les romans sophistiques peut également être considérée dans cette perspective classiciste, fondée sur les caractéristiques stylistiques plutôt que sur la question chronologique. Comme nous atteignons les années 1700, le roman grec continuait à faire partie des discussions littéraires en France depuis deux siècles, et comme on l'a vu, Isménée et Isménias étaient bien présents dans le domaine de la langue française. Il n'est donc pas très surprenant qu'une autre traduction parût en 1729. Il a été réalisé par Pierre-François Goudard de Beauchamp, romancier et traducteur libertin, plus connu comme écrivain dramatique et historien du théâtre. Nous ne pouvons pas être sûrs si Beauchamp a effectué sa traduction à partir de l'original grec, même s'il est probable qu'il connaisse au moins un peu de grec. On pourrait en effet dire que Les Amours d'Ismène et d'Isménias est plutôt une adaptation du roman byzantin dans l'esthétique du XVIIIe siècle. Des modifications ont été apportées par Beauchamp à la fois à la structure narrative et à l'intrigue. Même si l'histoire est fondamentalement la même, l'ordre des événements a, dans certains cas, été modifié et, plus important encore, l'action et la fonction de certains caractères ont été manipulées. Par exemple, le meilleur ami du héros, Kratisthène, qui dans l'original byzantin disparaît après avoir aidé Isménias à prendre conscience de l'amour et à s'enfuir avec Isménie, revient ici à la fin de l'histoire pour aider également à la réunion de la famille. Les changements les plus importants de Beauchamp se résument à l'élimination de presque tous les passages ekphrastiques du texte grec, l'insertion de courts poèmes et de références mythologiques gréco-romaines. Les descriptions longues et détaillées d'un jardin avec des peintures symboliques et l'interprétation de ces peintures par Isménias et Kratisthène jouant un rôle crucial dans le développement émotionnel du héros dans le roman byzantin ont été remplacés par une description relativement brève d'un jardin d'un tout autre genre et contenant d'œuvres d'art tout à fait différentes. La fontaine byzantine, œuvre d'art très compliquée, a été remplacée par une réelle grotte rustique et des rivières. Il n'y a pas de mur d'enceinte entourant le jardin chez Beauchamp, mais plutôt une vue imprenable sur le champ environnant. Sur une terrasse sont placées des statues de bronze appuyées sur des bases de marbre, 8 groupes de sculptures représentant des personnages et des thématiques mythologiques. Kratisthène regarde et explique les statues puisqu'il est familier avec les représentations. Il a voyagé à travers toute la Grèce, dit l'auteur, tout comme un jeune homme du XVIIIe siècle aurait visité l'Italie et la Grèce en effectuant son grand tour. Les peintures très élaborées et la fontaine artificielle du roman byzantin ont cédé leur place à la simplicité et au naturel, comme dans la description du jardin de Timistèves, le père d'Isménias. Il n'y avait point de ces beautés frappantes qu'on admire dans ces palais superbes où les Grecs voluptueux et gals surpassent aujourd'hui le luxe du roi de l'Asie. Tout était simple sans négligence, propre sans faste, utile sans dépense. Sosthène, le père de l'héroïne, qui possède un luxuriant jardin rempli de fleurs et de statues, est ravi est écrit « Heureux les hommes qui n'aiment, qui ne suivent que la nature ». Il y a donc une opposition explicite entre le grec simple et les asiatiques et les grecs orientaux, une opposition traduisible soit en antithèse entre d'un côté les grecs anciens et de l'autre côté les byzantins ou les grecs de l'Empire ottoman, soit en antithèse entre d'un côté l'idéal du jardin anglais, le jardin naturel, et de l'autre côté celui du jardin français, le jardin baroque. Le roman byzantin, avec sa forme rhétorique complexe et son jardin élaboré, ainsi était transformé en histoire gréco-romaine beaucoup plus classique et avec de nombreuses influences de l'esthétique du XVIIIe siècle. Il s'agissait en fait d'une adaptation fortement abrégée et remaniée. Ce remaniement est souligné par l'auteur traducteur lui-même dans la préface du texte qui s'adresse à une certaine madame, LCDF. B. Souvenez-vous, s'il vous plaît, que vous ne m'avez point assujetti à la sèche exactitude d'une traduction littérale, juste la liberté que vous m'avez donnée. Je change, j'ajoute, je retranche, j'évite de fautes, j'en fais de nouvelles. Vous gagneriez d'un côté, vous perdriez de l'autre. Les savants s'en scandaliseront. Ils ne manqueront pas si par hasard ils se donnent la peine de me lire, de me faire un crime de lèse-antiquité, de ne point trouver dans mes amours d'Ismène et Isminias celle d'Evstat. Beauchamp, comme tout auteur traducteur de son temps, est très conscient de sa méthode. Il connaît les avantages et les inconvénients de l'adaptation littéraire. Dans cette traduction, on risque de perdre le style littéraire spécifique de la période comnène, répétition et symétrie au niveau de la structure et du contenu, mais on gagne un récit remanié et amélioré en fonction de tendances littéraires du XVIIIe siècle. L'intrigue byzantine, répétitive, descriptive et lente avec son peu d'action, a été raccourcie, comprimée et fermée selon les nouvelles règles littéraires. Ainsi, le public du roman, comme Madame LCDFB, le commanditaire réel ou implicite de la traduction, devrait apprécier le résultat, bien que les savants pourraient accuser l'auteur traducteur de lèse-antiquité lorsqu'il faille de reconnaître le texte d'Evstat, de Macrenvolites, dans la traduction. La méthode du traducteur est en fait notée quand la publication est annoncée dans le journal littéraire du même année et le préface est même cité. C'est la deuxième ligne. On verra d'un coup d'œil le but et la méthode de l'auteur dans ce peu de paroles de son épître dédicatoire à Madame LCDFB. Souvenez-vous, s'il vous plaît, etc. Il est clair que le but et la méthode sont intéressants non seulement pour l'auteur-traducteur qui le développe dans sa préface, mais aussi pour le lecteur potentiel à qui l'annonce est adressée. Le lecteur curieux est même invité à relever les changements par rapport aux traductions précédentes, à savoir ceux de Louvaux et de Laval, datant du XVIIe siècle. L'annonce dans le journal littéraire indique qu'Ismène et Isminias étaient connus et lus à Paris du XVIIIe siècle, avant même que la nouvelle traduction ait apparu. Elle montre également que le renseignement contenu dans la préface de Beauchamp, juxtaposant le destinataire féminin, la madame, avec les savants, est un topos utilisé de manière ludique plutôt que d'une remarque objective. Il y avait certainement des femmes qui laissaient des romans, anciens et modernes, et certaines d'entre elles soutenaient des auteurs et encourageaient les traductions. Mais ces activités présupposent un certain degré d'éducation, même dans le cercle de la classe moyenne. Les salons du XVIIe et du XVIIIe siècle formaient un espace où les femmes pouvaient participer à la sphère culturelle, intellectuelle et politique. C'était aussi un espace où les hommes et les femmes se rencontraient, en partie selon les mêmes modalités, ce qui pouvait créer les conditions pour l'amusement romanesque que Beauchamp annonce dans sa préface. Quelle que soit la qualité de la traduction de Beauchamp, elle a eu un grand succès. Elle a eu au moins 12 éditions entre 1729 et 1797, et comme nous le verrons, elle a probablement contribué à la popularité du roman jusqu'à la fin du siècle. L'apparition suivante de notre couple byzantin se passe dans un contexte plutôt inattendu, à savoir un traité de philosophie libertine écrit par Julien Auffray de la Mettrie. La Mettrie est surtout connue comme l'auteur de « L'homme-machine », un rejet provocateur du dualisme du corps et de l'esprit. En tant que médecin et philosophe, la Mettrie a combiné la philosophie avec le matérialisme hédoniste. Il s'est donc intéressé à toutes les fonctions corporelles, y compris le plaisir physique. Il a exploré ce thème dans « L'art de jouir », une apologie pour le plaisir sexuel, publiée en 1751. Le traité commence avec une invocation au plaisir, l'inspiration de l'auteur. Il passe ensuite aux exemples du plaisir délicat, raffiné et surtout naturel. Daphnis et Chloé, et bien sûr, parmi eux, et aussi Ismine et Ismineas. Les histoires sont représentées d'une manière un peu impressionniste, avec un auteur qui s'adresse aux personnages en même temps qu'il adopte leur voix, comme s'il regardait un tableau ou une scène plutôt que s'il lisait un roman. Ismineas est ainsi introduit de la manière suivante. Que vois-je ? C'est Ismineas qui est sur le point d'enlever l'objet de ses désirs. Son bonheur est peint dans ses yeux, il éclate sur sa figure. Et du fond de son cœur, par une sorte de circulation nouvelle, il paraît répandu sur tout son être. Il parle d'Ismène et Coton, qu'il a l'air content et ravi. Enfin, dit-il, je vais donc posséder celle que mon cœur adore. Je vais jouir du fruit de la plus belle victoire. Dieu, que cette conquête m'a coûté. Mais qui soumet un cœur tel que celui d'Ismène a conquis l'univers. L'accent n'est pas mis sur le développement de l'intrigue, mais sur certains éléments importants. La séparation et la douleur du couple principal, ainsi que le plaisir physique et le débat érotique suspendu du protagoniste. Des sujets cruciaux du roman byzantin ont donc été maintenus et augmentés à l'aide de l'imagination de l'auteur. Son souci de détail nous rappelle des thématiques importantes du texte original, comme la signification de l'éros, le désir ou plaisir, l'éros et son empire. Le plaisir appelle Ismène, il lui tend le bras, il lui montre une chaîne de fleurs. Refusera-t-elle un dieu jeune, aimable, qui ne veut que sa félicité? C'en est fait, le conseil en est pris quand l'amour l'a donné. Eros, l'empereur du roman byzantin, assis sur un trône entouré de ses sujets, une image qui rappelle clairement l'empereur byzantin et sa cour, prend ainsi le double sens de l'éros grec et devient à la fois plaisir et amour. Un tel dispositif peut nous indiquer que la Mettrie avait bien lu la version grecque d'Ismine et Ismineas, ou peut-être une traduction plus proche du texte original que celui de Beauchamp, même si la traduction de Beauchamp était certainement en circulation au milieu du XVIIIe siècle. L'utilisation sophistiquée des motifs soutient également l'idée que l'art de jouir a été conçu, au moins partiellement, comme une œuvre littéraire composée dans la veine libertine, ce qui probablement explique l'inclusion d'Ismine et Ismineas. Comme nous l'avons déjà vu, le roman de Makrambolites était assez popularisé au milieu du XVIIIe siècle, lorsque la Mettrie était active. C'était un roman qui présentait une histoire très émotionnelle, potentiellement allégorique et confit de rhétorique, tous les éléments appréciés et valorisés par les romanciers libertins dans leurs propres œuvres. Ismene et Ismeneas contient aussi des descriptions de l'amour physique plus explicitement représentées que dans les autres romans grecs. Les personnages pourront en conséquence être considérés comme des incarnations de plaisir et d'émotion, et surtout Ismene, qui, étant une femme, prend l'initiative dans le jeu érotique, et ainsi il peut être considéré comme particulièrement naturel et érotique. Nous reviendrons sur ces idées dans la discussion finale, mais passons maintenant à une autre représentation d'Ismene et Ismeneas, mise en scène une dizaine d'années après l'apparition du traité de Lamétrie. En juillet 1763, le Mercure de France a publié l'avis suivant. On a donné dans la salle du château de Choisy divers spectacles en présence de leur majesté. Le premier, le 30 juin, était Ismene et Ismeneas, où la fête de Jupiter opéra en trois actes, composés express pour servir au divertissement de la cour. Le sujet de cet opéra est tiré des amours d'Ismène et Ismeneas. Ce qu'on a emprunté de ce roman se réduit à l'époque de la fête de Jupiter, célébrée par le peuple d'Evricum. L'auteur du livret est Pierre Laujon, qui avait été actif en tant que dramaturge depuis les années 40. Quand il a écrit Ismène et Ismeneas ou la fête de Jupiter, il a été bien connu. Le compositeur de la musique était Jean-Benjamin Delaborde, connu comme historien et compositeur, mais aussi comme favori de Louis XV, et donc un homme doté d'un certain pouvoir. Nous allons examiner quelques-unes des réactions très mitigées que l'opéra a suscitées, mais voyons d'abord la relation entre l'opéra et le roman. Comme nous l'avons vu, la vie du Mercure de France évoque le roman et ce qui a été emprunté de celui-ci. Ce qu'on a emprunté de ce roman se réduit à l'époque de la fête de Jupiter, célébrée par le peuple de Récom. Ce qui indique que le roman était généralement connu. Et un autre avis de la même année confirme ceci. Le lundi 30 de ce mois, blablabla, et puis à la fin, le sujet est tiré des amours d'Ismène et Ismeneas, roman très connu. L'auteur s'efforce ensuite d'identifier le passage qui a inspiré Laujon, qui, sans surprise, s'avère être une citation de la traduction de Beauchamp. Le même passage est cité par Laujon lui-même dans sa préface au livret dans ses œuvres choisies. Ce qu'on a donc emprunté du roman se réduit à l'extrait suivant. Jupiter les protège, tous les dieux les chérissent. Par une ancienne coutume ou par une loi inviolable, ils s'assemblent tous les ans dans le temple de Jupiter, les jeunes garçons de leur ville qui n'ont point encore aimé. On en choisit au sort parmi eux pour aller annoncer sa fête aux villes voisines. Il faut que, maîtres de leur cœur, ils reviennent indifférents, comme ils sont partis. Si quelqu'un manque à ce devoir essentiel de son emploi, un châtiment sévère attend le prévaricateur à son retour. Laujon a donc été inspiré par un passage spécifique de la traduction faite par Beauchamp et il fait également quelques commentaires intéressants sur ses ajouts. Il n'est point mention dans le roman d'Azaris, roi d'Evricum. Mais en resserrant l'action dans les bornes de la fête de Jupiter, on a cru devoir donner à Ismeneas un rival qui l'a mis dans la nécessité ou de perdre ce qu'il aime ou de faire son aveu à Ismène. Dans le jour prescrit pour la fête choisie par le roi pour son humaine. C'est aussi ce qui a déterminé à substituer au personnage de Cratisthène, ami d'Ismeneas, celui de Thémistée, le père, comme plus intéressé à veiller sur la gloire de son fils et plus éclairé sur ses périls. Les conseils de la nature sont toujours plus pressants que ceux de l'amitié. Il ajoute ensuite une note finale sur son adaptation. Enfin, l'auteur a cru pouvoir se permettre moins d'exactitude sur les faits dans un sujet tiré d'un roman qu'il ne s'en serait permis dans un sujet historique. Ceci est une remarque intéressante sur la relation du librettiste avec la réalité et la fiction. L'utilisation d'une histoire fictive semble avoir permis plus de liberté qu'un sujet historique. Ce n'était pas la première fois que Lojon avait été inspiré par un roman grec. L'une de ses premières œuvres était l'opéra pastoral Daphnis et Chloé. Dans la préface de ses œuvres jouassies, Lojon décrit comment son père voulait qu'il devienne avocat, mais il lisait les auteurs lyriques dans le secret et admirait surtout Philippe Canon, une figure majeure de la tradition du théâtre lyrique et connu surtout pour ses livrets écrits pour le comte de Jean-Baptiste Lully. Lojon exprime son admiration pour Canon d'une manière qui indique clairement que ce qu'il a vraiment admiré et qu'il voulait imiter était la possibilité de transformer la poésie en spectacle de scène, de représenter et de personnifier des passions. Comme il était amoureux à l'époque, il s'est tourné vers le roman Daphnis et Chloé, dont le héros lui rappelait lui-même, et il se mit à transformer le texte en une opéra qui représentait ses propres passions. C'est moi que je faisais parler dans Daphnis. C'est elle que je peignais dans Chloé. Et comme mon cœur était mon guide, jamais ouvrage ne m'a moins coûté. Cela peut paraître comme un détail autobiographique romantique, expliquant la place éminente de Daphnis et Chloé dans les œuvres choisies, sans rapport immédiat avec les adaptations de romans pour l'opéra de Lojon. Cependant, je pense que nous avons ici une des clés pour comprendre l'attrait que le roman grec a exercé sur la scène du XVIIIe siècle. La représentation des émotions, la description élaborée des passions. Les changements que Lojon a apportés à l'histoire originale d'Isminé et Isminéas visent toutes à représenter autant d'émotions que possible dans le cadre d'une action restreinte, tandis que le pouvoir de l'amour reste le moteur de l'intrigue. L'amour, personnifié, n'apparaît qu'à la fin de l'opéra. C'est dans une scène remplie d'émotions qu'il unit finalement le couple des amoureux et ainsi obtient le dernier mot. Vous avez trop connu ces peines, connaissez enfin ces plaisirs. Vous versiez des larmes, quel moment succède à vos soupirs. Du sein des alarmes naissent vos plaisirs. Les peines donnent ainsi naissance au plaisir d'une manière caractéristique non seulement de la scène du XVIIIe siècle, mais aussi du roman byzantin. L'effet de grande émotion et de souffrance érotique a été encore renforcé par un ballet d'action dans le deuxième acte, dépeignant l'histoire de Jason et Médée. De tels ballets sont parfois perçus comme un simple divertissement placé au milieu de l'opéra pour l'amusement de l'auditoire, mais dans ce cas, le thème est clairement choisi afin de représenter la souffrance des protagonistes face au risque de perdre l'un l'autre. En outre, le ballet d'action comme une forme d'art est un moyen essentiel d'évoquer réactions émotionnelles avec une combinaison particulière de la musique et du mouvement corporel. Certains spectateurs pensaient que le ballet était la meilleure partie de la représentation. Voyons donc brièvement quelques réactions à la représentation pour voir comment l'effet émotionnel a été perçu par le public. Denis-Pierre-Jean Papillon de La Ferté, intendant de Menu Plaisir du Roi, a ajouté quelques commentaires sur l'opéra dans son journal le 18 juin de 1763. Les avis sur cet ouvrage ont été fort partagés. Monsieur le duc de Choiseul a été au grand regret de Monsieur le duc de Duras pour la négative. Au reste, cet ouvrage m'a Paris trop chargé de musique et sans une grande entrée. Les ballets ont été trouvés bons, entre autres celui qui peignait la malheureuse catastrophe de Janson et de Médée. Nous pouvons avoir des exemples de ces opinions divergentes dans d'autres sources aussi. Le Mercure de France dit que la musique était remplie de choses savantes et agréables, tandis que le ballet du 12e acte est décrit comme pantomime du grand genre, de la plus belle composition, et peint avec toute la vérité et l'énergie dont l'art est capable. Quant à l'intrigue de l'opéra, l'auteur d'un compte-rendu dans l'année littéraire était ravi et a fait valoir que le livret pourrait même être lu pour ses propres mérites. Cet opéra, monsieur, a beaucoup réussi. Il plaît même à la lecture privée de secours du chant et de la danse qui sortent d'ouvrage. Il a dans celui-ci de l'imagination, de l'esprit, du sentiment, de la délicatesse. Le plan en est simple, naturel, bien conçu, bien développé. L'action est intéressante. Et il y a des moments, tels que celui du dernier acte, où l'âme est déchirée. La situation d'Isménias est neuve et vraiment tragique. Nous notons ici un certain nombre d'aspects qui caractérisent non seulement une bonne tragédie lyrique, mais aussi un roman réussi. L'imagination et le sentiment, la simplicité et la crédibilité, le développement et l'innovation. Ces caractéristiques indiquent la raison pour laquelle des romans grecs tels que Daphnis et Chloé et Isménée et Isménias se prêtent si facilement à la forme de l'opéra, en particulier sous la forme condensée composée par Lojon. Alors, comment allons-nous comprendre la forte présence d'Isménée et Isménias dans la France du XVIIIe siècle? Est-ce juste une de nombreuses belles histoires tirées du riche réservoir d'histoires anciennes et utilisées pour l'amusement de lecteurs romantiques? Ou avait-elle quelque chose qui a été considéré comme particulièrement attrayant pour le public du XVIIIe siècle? Si nous commençons par examiner la traduction de Beauchamp, il est évident que le roman grec avait de nombreuses caractéristiques qui pourraient plaire aux adeptes romans et aux libertins. Le style rhétorique et sophistique, les allégories énigmatiques et l'érotisme implicite ou parfois bien explicite. Dans la version de Beauchamp, il a été transformé en un roman court avec une histoire plus cohérente, moins descriptive et encore plus grecque, toujours avec des implications allégoriques, émotionnelles et érotiques. Même si l'érotisme est quelque chose que nous avons appris à associer au milieu libertin, je dirais que l'émotionnel est le mot-clé ici, plutôt que l'érotique en soi. Si nous passons à la métrie et son utilisation d'Isménée et Isménias comme le couple idéal, ce n'est pas leur amour physique qui affecte principalement le philosophe, mais la qualité émotionnelle qui l'accompagne. Bien sûr, Isménée est une femme dont les actions plaisent à l'esprit libertin. Elle fait le premier pas, elle séduit Isménias, ce qui signifie qu'elle est un esprit libre qui suit ses impulsions émotionnelles et physiques. En même temps, Isménias suit le modèle du héros libertin typique. Il est peu à peu initié au mystère de l'amour jusqu'à ce qu'il possède lui-même les connaissances nécessaires pour devenir le maître de jeu. La présence du couple byzantin dans les écrits de Beauchamp et la métrie peut donc être comprise du point de vue libertin, dans le sens que l'histoire trouvée dans Isménée et Isménias semblait adhérer à l'amour idéal d'un point de vue émotionnel et érotique. En ce qui concerne l'opéra, c'est encore le potentiel émotionnel de l'histoire qui le rend apte pour la scène. L'opéra et la tragédie lyrique en particulier étaient censés susciter de fortes émotions dans le public avec la combinaison de l'intrigue, du théâtre et de la musique. Cet effet pourrait être encore renforcé, comme dans ce cas, par l'inclusion d'un ballet d'action. D'histoire romanesque se prêtait facilement à des adaptations pour la scène car elle visait au même effet émotionnel. Cela devient très clair dans un passage sur leur monde dans l'encyclopédie, plus ou moins contemporain des œuvres examinées ici. Jean de Jaucourt, l'auteur du Lemme sur le roman, il discute l'utilité du roman et il déclare que « D'ailleurs, on aime le roman sans s'en douter à cause des passions qu'il peigne et de l'émotion qu'il excite. On peut par conséquent tourner avec fruit cette émotion et ses passions. » On pourrait dire la même chose de l'opéra. Il peint les passions et suscite des émotions, de sorte que le public peut sentir des sentiments de manière fructueuse. Et dans le cas de la fête de Jupiter, cela semble avoir fonctionné parce que l'opéra de Lojo a en effet provoqué des sentiments bien forts. Chacun des trois auteurs examinés ici a adapté Ismini et Isminias à sa manière et à ses propres fins. Beauchamp et Lojon ont tous les deux commenté leur objectif et leur méthode dans les préfaces, tandis que Lametti a permis au texte lui-même d'exprimer la pertinence des amants exemplaires. Il serait tentant de penser que les libertins utiliseraient un roman byzantin plutôt qu'une histoire d'amour ancienne comme un manifeste contre la tradition classique. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de byzantinisme dans le choix des amants idéaux, en particulier dans le cas de la maîtrise qui a mis en question la philosophie classique. Cela nous ramène à l'une des questions posées au début de cette conférence. Les romans byzantins ont-ils été considérés comme moins précieux que le roman grec ancien au XVIIIe siècle? La réponse à cette question est clairement négative. Comme nous l'avons vu, aucune distinction n'a été faite entre les romans anciens et les romans byzantins, même s'il y avait certainement une conscience de différence chronologique. Ils ont tous été considérés comme des romans grecs, en fonction de leur forme et contenu. Il n'y a donc aucune raison de croire que la maîtrise a préféré Ismini et Isminias à cause de leur origine byzantine, mais plutôt parce qu'il incarnait l'érotisme émotionnel qu'il voulait décrire. On se souvient que l'un de ses autres couples idéaux était Daphnis et Chloé, personnages d'un roman qui est associé à celui de Macromolites un siècle plus tôt. Le définissant tous les deux comme sophistiques, c'est-à-dire rhétoriques et sentimentales. Et comme nous l'avons vu, Daphnis et Chloé était aussi le premier roman que Lojon a transformé en opéra très personnel, érotique et sentimental. Il a été parfois supposé que la littérature profane de Byzance n'ait eu pas sa place dans la tradition européenne avant qu'elle ne soit découverte dans le 19e et le 20e siècle. J'espère avoir montré ici que cette idée est fausse et que la littérature profane de Byzance était en effet présente en Europe, bien que parfois sous des formes différentes de ce que nous nous attendons. Nous avons vu comment un roman byzantin a été transmis, lu, traduit et utilisé par des romanciers, des philosophes et des musiciens en France du XVIIIe siècle. Il a gagné en popularité non pas parce qu'il était un roman byzantin, mais parce qu'il faisait appel à des préoccupations du XVIIIe siècle avec la raison, le sentiment et le corps, souvent exprimés par des écrivains et des artistes qui souhaitaient remettre en question les conventions intellectuelles, culturelles et artistiques. Mon étude indique qu'une enquête plus approfondie d'autres textes pourrait donner des résultats intéressants. En outre, il montre que l'image du roman byzantin au XIXe siècle comme un genre dépravé et méprisé n'est pas représentatif de l'ensemble de la tradition occidentale. Quand Philippe Lebas a écrit son introduction à une nouvelle traduction d'Ismini et Isminias en 1828, en commençant par la défensive, il est rare qu'un traducteur ne fasse pas l'éloge de l'auteur qu'il traduit. Il présente en effet un postulat nouveau. La tradition moderne, selon laquelle l'imitation est mauvaise, et l'imitation byzantine en particulier. Comme un des représentants de cette ligne de pensée, Lebas a confisqué une longue histoire d'appréciation et d'influence, l'histoire d'un roman qui, dans le siècle précédent, avait vu un énorme succès littéraire. Cette conférence a été une tentative de reconstruire au moins un petit morceau de cette histoire confisquée. Merci.